à tous, bienvenue aux ateliers Vortex pour cette 10e conversation à l'occasion de la clôture de l'exposition de Cédric Esturillo, Prospective paresseuse. Alors, les conversations, ce sont des événements qu'on organise à l'occasion de chaque exposition et dont le principe est de proposer à l'artiste de convier un interlocuteur extérieur au domaine des arts visuels. Pour envisager sa pratique et ses questionnements par le prisme d'un autre angle que celui de sa pratique artistique proprement parler. Je vais peut-être, Cédric, te laisser présenter Steven Salter que tu as invité aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Marion, merci aux ateliers du coup de nous donner cette possibilité de faire une conversation qui est en général assez intéressante, parce que c'est vrai que en tant qu'artiste, on a souvent un processus de travail assez long qui est assez difficile à mettre en place et à essayer de centrer, mine de rien, sur des grands intérêts, des grands questionnements qu'on peut avoir sur le monde qui nous entoure et en général sur comment attaquer un axe de discussion autour de nos travaux. Et donc c'est l'occasion pour moi d'en parler, de montrer un peu la manière dont je travaille, de parler de mes références. À cette occasion, donc, j'ai pu inviter Steven Salter, qui est un ami à moi avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai échangé énormément de choses sur des cultures qu'on a en commun, pas toujours le cas non plus, avec des références très variées, et qui a une approche, une vision qui me semble très intéressante à développer avec vous, bien entendu, puisque vous êtes invité à réagir aussi avec nous si vous en avez envie, ou alors on fera une autre question, enfin on verra. Le fait est que c'était un peu l'occasion du coup d'inviter Steven et d'avoir cet échange un peu plus de manière formelle sur des questionnements que l'on a sur différents points de vue, et notamment sur des choses qui relient vraiment tout à ma pratique artistique, aussi bien culturelle que liée à des questions, on va dire, assez globales de représentation, aussi bien dans le champ de l'art que de la science-fiction, parce que c'est vraiment une des choses importantes pour moi. Pour vous donner quelques mots sur cette exposition avant de vraiment partir dans le dur, j'ai donc travaillé 2 mois en résidence à Vortex pour produire ces pièces. Toutes les pièces ont été faites in situ, donc dans l'idée de faire vraiment une exposition qui soit liée à l'environnement, au bâtiment et à mes recherches actuelles. Donc du coup, tout est assez lié à cet atelier qui est très intéressant à travailler, par son côté white cube sur certaines parties, des murs blancs qui correspondent à un dispositif assez muséal, assez classique, et toute la partie supérieure de l'architecture et du reste finalement de la zone industrielle qui correspondent vraiment à une esthétique industrielle assez datée, des formes marquées au niveau de la couleur, de l'aspect et de l'époque, et qui me permettait moi de faire aussi une porte d'entrée dans mon travail sur le point de vue du lien à l'industriel ou toutes les formes qui en découlent. Je voulais aussi, un des points d'entrée qui était très important pour moi, c'est qu'il y ait quelque chose d'assez immersif dans l'installation, qu'on sente très vite dans un environnement qui aurait été déplacé. Et voilà, je pense que c'était une des choses qui comptait pour moi, quoi. On va commencer peut-être, je sais pas, si tu as des choses à me dire autour de ça.
Ouais, voilà, par rapport à l'environnement, moi ce que ça me fait ressentir en arrivant dans l'installation, c'est notamment par rapport à la terre noire, les plantes mortes qui entourent les œuvres, et ces œuvres, on sent qu'elles ont été dégradées, qu'il y avait genre un bloc de pierre avant et qui s'est effrité, qui s'est effondré. Et du coup, il y a une notion de ruine, d'hiver, d'effondrement un peu, d'hiver civilisationnel. Donc voilà, par rapport à ça, je sais pas si...
En effet, il y a une question de la ruine qui revient assez souvent sur pratiquement toutes les pièces, outre même la terre, finalement. Le lien à la ruine est assez intéressant, je trouve, dans l'histoire de manière générale, puisqu'il y a un rapport dans l'histoire à la ruine qui renvoie forcément au passé. La ruine est un témoignage dans une époque contemporaine, d'une époque passée. Elle a donc une direction un peu à l'arrière, quand on regarde un peu à l'arrière, quand on regarde la ruine. Et du coup, je trouve ça assez intéressant Déjà de faire un lien avec l'espace, c'était un des premiers points d'entrée, comme je vous disais, l'espace qui n'est pas une ruine mais qui correspond quand même à une époque très marquée et dont on voit l'héritage maintenant. Donc de transposer des pièces qui viennent de l'extérieur, de les montrer en tant que ruines quelque part, me rappelait à la fois ce passé industriel de ces bâtiments, c'est pour ça qu'il y a ce choix de couleur aussi, mais on y reviendra je pense un peu plus tard, et puis aussi un rapport à un certain type de romantisme, parce que la ruine commence vraiment à rentrer dans le champ de l'art, ou presque sous la bannière du romantisme, à travers la fabrique de jardin, qui est, vous voyez, ce dispositif qui est mis en place à partir du 17e, je dirais.
Ouais. Peut-être, après, moi, j'ai l'impression que la ruine, ça arrive un peu avec la Renaissance, quoi, et la fascination que les Européens commencent à avoir pour leur antiquité, et du coup, ouais, que les ruines, qui au Moyen-Âge, c'était juste des vieilles pierres dont on se foutait, sont devenues quelque chose de vénérable, quoi.
Ouais,
Et après, toute l'éducation artistique au XVIIe, XVIIIe siècle, avec notamment le Grand Tour que devaient faire les artistes, tout ça, c'est... Ouais, et ce qui donnera le romantisme.
Oui, parce que clairement, il y a une grande tradition de la peinture, de la représentation de la ruine qui apparaît à cette époque-là. Des ruines en général plutôt classiques, enfin, on est sur un modèle très mythologique avec des immenses bâtiments, ou des ruines de bâtiments avec beaucoup de plantes et quelques individus qui apparaissent de manière très petite dedans, enfin, pour montrer la grandiosité de civilisations qui ont disparu. Et donc cette phase romantique qui est née à peu près à ce moment-là et qui deviendra la fabrique de jardin et cette fameuse manière de représenter une ruine dans un parc comme étant un vestige même complètement... enfin, tout le monde sait que c'est une fausse ruine, que personne n'a vraiment jamais habité dans ces endroits-là, mais qui va très loin dans le délire, puisqu'il y a même une tradition de la ruine avec des ermites qui sont payés pour venir habiter des ruines. Il y a des contrats de... On avait vu ça ensemble, je crois,
d'ailleurs. Des emplois où le gars était payé pour être habillé en loc et habiter dans une petite grotte ou une ruine dans le jardin d'un seigneur. Quoi, quand on visitait le jardin, il y avait ce décor pittoresque, quoi, avec l'ermite.
Le faux ermite qui, justement...
L'ermite des temps passés.
Qui remettait ce côté romantique et très, très obsolète, enfin suranné des bâtiments qu'il y avait eu là, quoi. Et donc, du coup, oui, je pense qu'il y a cette entrée-là dans ce travail par rapport à ce lien avec le passé. Et puis, parce que j'essaie vraiment de sortir les objets de terre avec la terre qui est autour pour les transposer dans un centre d'art, quoi. Comme je vous disais, c'était vraiment ce point de vue un peu immersif et puis un point de vue aussi lié à, mine de rien, à quelque chose qui renvoie à la ruine et au côté sacré. On y reviendra peut-être, je ne sais pas, plus tard, mais voilà, quelque chose d'assez sacré qui peut renvoyer un peu au cimetière, mine de rien, cette construction, ces formes qui apparaissent un peu comme des blocs, un peu hétéroclites, mais à peu près tout le temps de la même taille.
Qui pourraient correspondre à des pierres tombales, des sarcophages, des monuments.
Exactement, ouais.
Et du coup, ça serait les ruines de quelle civilisation?
En fait, j'ai pas mal d'inspirations assez diverses dans les représentations que j'ai essayé de faire. Il y a des choses qui renvoient un peu, selon moi, au Second Empire. Je pense à la pièce qui est tout au fond derrière, qui est donc cette espèce de fontaine assez surélevée, qui évoque, représentation soit de statues au sommet d'une colonne, soit au type de fontaine qu'on peut voir encore maintenant, qui sont souvent des fontaines d'aspect aquatique, qui crachent soit de l'eau, soit qui sont représentées, qui correspondent à vraiment à des plans d'urbanisation du Second Empire, hein, je crois que c'est à peu près cette époque-là.
Ouais. Ça me fait penser à des stèles funéraires romaines, quoi. Ils faisaient bien des gros blocs comme ça, avec les inscriptions dessus.
En effet, oui, j'ai pensé aussi à ça, sur des pièces plus proches, où je m'inspire un peu de tombeaux. Donc, plusieurs références à différentes civilisations, parce que je pense que tout le monde a ses références un peu ancrées par l'habitude de les voir, de fréquenter des villes chargées d'histoire, comme c'est le cas... de beaucoup de villes en France finalement, et puis parce qu'on voit, on est dans une tradition très antique, très gallo-romaine, et donc une succession d'informations qui nous environnent vraiment et qui renvoient soit au christianisme, soit des périodes encore plus anciennes, mais qui sont assez liées à ça, quoi. Et puis il y a des pièces peut-être un peu plus liées à des choses contemporaines, je pense notamment à cette pièce-là, qui n'est pas vraiment une ruine, pour le coup, mais qui est peut-être plus un hôtel. C'est aussi pour ça que j'ai centré cette pièce sur l'architecture, pour qu'elle ait une présence un peu forte, sans vraiment dépasser des autres au niveau de la taille. Mais c'est la seule qui n'a pas de terre, à part la pièce qui est au fond aussi, c'est la seule qui n'a pas de pierre de terre autour, et qui est présentée comme un gros bloc avec donc cette mue de serpent et cet aspect travaillé avec des formes qui semblent s'extraire, enfin selon moi, du socle, et qui en même temps pourraient renvoyer une espèce d'écriture un peu ésotérique, un peu étrange, quoi.
Ouais, et puis, enfin, ouais, ça ressemble carrément à un hôtel, mais justement le fait que ce soit placé vraiment dans le centre du lieu, enfin comme pièce, et puis sans la terre, c'est-à-dire que c'est un objet qui appartient à la pièce, alors que les autres ont été rapportés, quoi, donc
c'est ça, ouais.
Ça serait une sorte de temple, un peu, et donc c'est intéressant d'avoir le serpent en exposition sur l'autel, parce que le serpent, c'est un symbole ésotérique fort, et notamment dans plein de traditions religieuses, on retrouve le serpent à différents niveaux. Donc chez les chrétiens, il est principalement, vulgairement, on va dire, associé au diable, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on le retrouvait dans plein de cultes antiques, dans les cultes de Dionysos, ils utilisaient des serpents, chez les Égyptiens, tout à fait, dans les mystères d'Orphée, tout ça. Et puis aussi en Orient, bien sûr, dans l'hindouisme, le bouddhisme, certains ont bien sa place. Et notamment, mais ce qui est intéressant avec le symbole du serpent, c'est que c'est considéré un peu comme le symbole de l'animation de la matière, quoi, c'est-à-dire la matière qui devient vivante, qui est un peu le drame originel de l'être humain, quoi, c'est d'être vivant enfermé dans de la matière. Le serpent représente ça dans la mesure où c'est la forme la plus simple de vie, c'est juste une ligne qui s'anime. Voilà, aussi sur le serpent, il y a justement ce truc dont on parlait sur l'horizontalité et la verticalité du serpent, où, par exemple, dans l'Ancien Testament, le serpent a convaincu Ève de manger la pomme, qui se font chasser et tout, Dieu maudit le serpent et le condamne à ramper par terre. Et donc il reste dans l'horizontalité, qui est en fait le plan de la matière, il est enfermé ici. Et il y a tout un truc, alors je ne sais plus exactement, mais c'est dans l'Exode, avec Moïse, tout ça. À un moment, ils se font attaquer par des serpents, et il y a une solution divine qui arrive, c'est de prendre un serpent et de le mettre sur une rampe, comme un étendard, et de le mettre en l'air, quoi. Et donc de passer le serpent c'est-à-dire l'incarnation vivante de l'horizontal dans la matière, au vertical, pour le relier au sacré. Et on retrouve notamment, là j'ai vu ce matin au musée d'art sacré, là, il y avait sur une de ces petites coupelles pour les hosties, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y avait le symbole du Kyro, le chrisme, et avec un serpent dessus qui montait, quoi. Voilà, donc c'est pas mal de... d'avoir mis ça comme objet sacré, c'est assez fondamental, quoi.
C'est aussi cette pièce, notamment, il y avait vraiment cette question du serpent qui m'intéressait sur toute le potentiel religieux qui est à travers le serpent, mais il y a aussi une autre référence dont on parle pas mal ces derniers temps. Pour moi, en tout cas, c'était une référence un peu importante parce que j'étais en train de relire Dune quand j'étais aux ateliers. J'ai relu Dune parce que je savais qu'il y a le film de Villeneuve qui allait bientôt sortir, donc c'était vraiment l'occasion de me remettre dedans un bon coup, quoi. Et je pense qu'un peu tout le monde a entendu parler du film qui sort actuellement. Le livre, en quelques mots, est un livre qui est un livre de science-fiction assez édulcoré au niveau de la science-fiction. Il y a vraiment peut-être plus un potentiel heroic fantasy ou high fantasy, ouais. Peut-être, parce que le prince, enfin l'idée du monde de Dune correspond donc à une planète désertique très très sauvage, très très dure à contrôler, qui a une grande richesse à travers une substance qui s'appelle l'épice, et qui est une substance qui est extrêmement chère parce qu'elle permet à l'ensemble de l'humanité de voyager. L'épice provoque en fait chez les humains qui l'ingèrent une espèce de vision légèrement divine d'un futur très proche, et donc du coup les gens s'en servent, enfin une partie de la population s'en sert pour voyager dans l'espace. En gros, les ordinateurs ont été bannis
Suite à une révolte des intelligences artificielles 3000 ans avant.
Voilà, quelque chose comme ça, 3000 ans avant, révolte des intelligences artificielles, les humains les bannissent et on ne peut plus se déplacer dans la galaxie. Du coup, on utilise cette substance qui permet au navigateur, en gros, de prévoir à quel endroit le vaisseau va devoir s'arrêter, etc. Et donc, cette planète Dune est cafie d'épices et une personne, enfin une baronnie hérite de la planète, une espèce de cadeau empoisonné, vraiment une question de trahison très, très shakespearienne en fait. Hein, ouais. Finalement, on est vraiment sur quelque chose de presque un space opéra, mais vraiment plus dirigé vers une référence à Shakespeare avec des trahisons, des mariages forcés, une personne qui est plus ou moins un élu, mais qui va provoquer à la fois une disparition, une guerre sainte, qui est appelée le djihad dans le bouquin, qui est donc, du coup une référence très orientaliste. Et la planète est parcourue d'immenses serpents, enfin, qui s'appellent les vers, ou dans le nom traditionnel de la planète, le Shai Ulud, qui est donc une espèce de ver géant qui crée lui-même l'épice par un système assez compliqué d'éjection, en fait.
Ouais, en fait, c'est le ver qui crée l'épice. Du coup, il y a tout un culte des habitants de la planète autour de ce ver, enfin, c'est leur animal sacré.
Le ver qui s'appelle le Phaser, et qui est un ver d'une taille... monstrueuse, hein. C'est vraiment des vers de... Je crois qu'ils disent au début qu'ils font à peu près 400 mètres de long, et puis il s'avère très vite qu'il y en a qui font plusieurs dizaines de kilomètres, il me semble. Bon, c'est un animal assez étonnant dans le bouquin, parce qu'il est très rapidement évoqué comme un animal indispensable à la planète, dangereux, mais en même temps porteur de la peu de vie qu'il y a sur la planète. Il l'appelle le Phaser, hein. Enfin, le grand Phaser ou Shai Ulud, donc je crois que c'est la traduction du nom. Et donc il a ce potentiel de vie, un potentiel de mort évidemment, parce qu'il sillonne continuellement la planète, qui impose aux gens de ne pas se déplacer ou très peu, ou de manière très, très calculée, en faisant des pas de côté pour éviter d'appeler le serpent par la répétition du mouvement. C'est un peu évoqué dans le film d'ailleurs.
Ouais.
Et donc cette question de ce rapport au serpent m'intéressait, ce rapport aussi tout simplement à ce film, puisque c'est une autre entrée de mon travail en fait, sur un côté peut-être plus sacré. Le sacré en fait est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, imaginer le sacré du futur m'intéresse beaucoup, et j'ai vraiment essayé d'englober toutes ces références au sacré dans la science-fiction comme une des entrées possibles de mon travail, quoi.
Oui. Il y a régulièrement dans les œuvres de science-fiction, pas toutes, mais il y a toute une catégorie où l'auteur cherche à faire une résurgence du sacré qui a plus ou moins disparu de notre civilisation actuelle. Et une sorte de prospective de à quoi pourrait ressembler un sacré futuriste. Quoi.
Mmh.
Donc souvent avec des questions d'intelligence artificielle, sur le questionnement de l'âme, enfin, qui questionne la notion d'âme et tout ça.
Oui, la notion d'âme, évidemment, ouais, qui est liée. Enfin, c'était une des portes d'entrée vraiment dès le début. Hein, j'ai vraiment axé mon travail sur l'idée de comment représenter un futur qui serait devenu sacré. Alors, la petite porte d'entrée que j'avais essayé d'ouvrir, c'était sur la question de l'intelligence artificielle et peut-être aussi de la technologie qui avance de manière très rapide et qui fait qu'on maîtrise très peu nos technologies. Et là où on maîtrise peu les choses, à partir du moment où on maîtrise peu les éléments qui nous entourent, une part sacrée revient forcément, parce qu'il y a une part de magie en fait. Les choses qu'on ne comprend pas dérivent directement sur la magie. Et donc si l'électronique ou l'informatique ou quelque chose qui est lié au futur devient magique, comment le potentiel arrive?
Ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'univers de Jodorowsky, avec les technopères, notamment les bandes dessinées, l'Incal, les métabarons, tout ça. Il existe une caste qui s'appellent les technopères, qui sont un peu une sorte d'église ultra dogmatique, fermée et inquisitrice, et qui sont en fait ceux qui maîtrisent la technologie et qui la dispensent à tout l'Empire galactique, quoi. Mais en fait, dans cette civilisation-là, plus personne ne sait comment fonctionnent les choses, n'est capable n'y a plus aucune connaissance technologique. Parce que en fait, toute la technologie, toute la recherche est passée dans la main des intelligences artificielles avec lesquelles les technopères travaillent. Et on peut imaginer, là où on commence à parler beaucoup d'intelligence artificielle de nos jours, qu'à partir du moment où on pourra créer des intelligences artificielles qui vont créer elles-mêmes des intelligences artificielles, qui pourront se mettre à faire de la recherche et du développement technologique, etc., qu'on peut arriver à un moment où, en fait, ça sera tellement déconnecté des capacités humaines et des savoir-faire humains qu'on reviendra, enfin, on arrivera à ce que... Bon, c'est le jour de Chodorowski parle dans ses BD, et quelque chose qui relèvera, en fait, de la magie pour les habitants des millénaires futurs. Ça sera... Ce sera de la technologie, mais qui aura plus rien à voir avec celle de maintenant, dans la mesure où elle sera plus comprise, ni maîtrisée, ni fabriquée par l'homme.
Tout à fait, ouais. Et pour rebondir ce que tu disais par rapport au technopère, qui est l'empire techno-techno, je crois, à la base, avec différents types de... Le technopère étant le représentant ultime de la secte techno-techno, il me semble, je ne me souviens plus le nom exact. Mais c'est assez intéressant sur un petit détail, c'est qu'il porte au-dessus de la tête non pas une auréole, parce qu'il y a des personnages avec des auréoles dans l'Incal qui sont en fait une espèce des aristocrates qui se font implanter une auréole à la naissance. Ils ont tout le temps un cercle lumineux au-dessus de la tête qu'ils baladent autour d'eux et qui leur sert un peu d'arme de défense. Enfin, c'est plus anecdotique.
C'est plus une Rolex en fait, oui. Pour montrer qu'ils sont dans haut.
Ouais. Et à l'inverse, les techno-techno ont une espèce d'œuf noir qu'ils appellent un œuf d'ombre. Qui, au-dessus de leur tête, qui grossit quand leur capacité grandit, et qui est vraiment un œuf d'antimatière. En fait, c'est l'idée de... C'est aller tellement loin que ce qui représente vraiment leur puissance, c'est l'absence de toute information, finalement. Et je le vois un peu comme ça, quoi. Il y a vraiment ce truc de... Un trou béant qui correspond à cette technologie qui allait tellement loin que... Ce qu'on peut lui imposer, c'est vraiment...
Et puis, je pense que connaissant Jodorowsky, c'est un peu aussi... une sorte d'anti-vie, ouais, parce que en fait, finalement, il oppose beaucoup la technologie à la vie, qui sont deux façons d'arriver à des choses incroyables, quoi. Et donc les technopères sont tellement loin dans la technologie qu'ils sont dans la négation, quoi.
C'est pas les personnages les plus sympathiques des bouquins en général, c'est un peu les méchants. Et il y a toute l'histoire de l'Incal est liée vraiment à cette idée de quand on a une technologie, une spiritualité aussi, enfin une spiritualité, une secte et un pouvoir aussi puissant, comment une nouvelle balance peut intervenir, quelque chose de différent peut rentrer et devenir quelque chose de plutôt positif. Et l'Incal est vraiment lié à ça, à une forme beaucoup plus spirituelle, très... très baba cool, on peut dire, limite, un développement personnel, une ouverture sous la forme d'un lotus.
Et puis il y a cette pyramide blanche et la pyramide noire.
Qui s'imbrique.
Voilà, c'est un peu une recherche de rassembler le yin et le yang, tout ça, ouais, c'est assez baba cool. Ouais, c'est un truc qui a été fait dans les années 70-80.
Ça. Ouais. La différence, mine de rien, pour en revenir à Dune, finalement, c'est ça qui m'intéresse aussi dans Dune, c'est ce rapport au sacré. Parce que Dune part du principe, du coup, outre cette technologie, outre les vers, il y a vraiment dans Dune un rapport à une civilisation qui a décidé, pour des raisons toutes simples, d'éviter d'avoir des guerres à répétition liées à des différentes religions. Toutes les religions se sont mises d'accord pour en former plus qu'une seule, qui s'appelle la Bible catholique orange et qui est répandue dans tout l'univers catholique, dans tout l'univers galactique, sous la forme d'un catholicisme un peu édulcoré, un peu transformé, mais qui est vraiment... utilisé par tout le monde de la même manière. Et le personnage central du livre de Dune, qui est donc le fils du baron qui va hériter de cette planète désertique, qui s'appelle Paul Atreides et qui prendra plein de noms tout au long du livre, va avoir une espèce de vision à cause de l'épice ou grâce à l'épice d'un futur où lui-même crée une espèce de religion, enfin involontairement, mais crée une espèce de culte qui va former ce qu'il appelle le djihad. Et le djihad est utilisé... très régulièrement, un djihad qui va provoquer vraiment la chute de la galaxie, finalement. Il se voit en haut de piles de cadavres en train de détruire des planètes, littéralement, quoi. Et très vite, donc il est très jeune au moment où ça lui arrive, il commence à se dire qu'il ne faut pas du tout faire ça, et il se pose la question de comment éviter de provoquer ce qu'on va devenir. Et donc la question de la religion arrive sur ce biais-là, quoi. Sur comment promouvoir quelque chose qui change de la Bible catholique orange et que lui voit comme une ouverture un peu philosophique à tous ces questionnements qui lui arrivent régulièrement, liés aussi à l'utilisation de l'épice, et puis en même temps d'éviter qu'une nouvelle religion crée une nouvelle guerre de religion, quoi.
Comment créer du nouveau sans détruire l'ancien,
Tout à fait, ouais.
C'est compliqué.
C'est compliqué, ouais. Et voilà, donc c'était une des entrées, voilà, ce côté sacré qui, voilà, comme on disait, revient dans beaucoup de choses de la science-fiction. Hein. Je pensais aussi, on va peut-être en parler rapidement, mais puisque j'avais, j'ai pas pris... Si, là, voilà. Je pensais, bon, c'est très différent, hein, mais je pensais à Ghost in the Shell, qui est un film tiré d'un manga de... Le manga, on regarde tout à l'heure, était de 89, je crois, et le premier film est de 95. Merde, comment il s'appelle cet auteur ? J'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui est un réalisateur.
Pardon ?
Ouais. Qui a aussi réalisé un très bon film très étonnant qui s'appelle Avalon. Avalon, qui est vraiment un film qui se passe, enfin qui mixe beaucoup de références très diverses. Et, je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu connais.
C'est ce truc un peu jeu vidéo où ils sont dans une sorte de FPS en réalité virtuelle. Ça se croise avec la réalité. En
fait. Ça se croise avec plusieurs réalités sans qu'on sache vraiment à quel moment la réalité intervient, quelque chose qui est devenu assez classique, entre guillemets, dans la représentation de la science-fiction, mais qui pose des bases avec beaucoup de choses assez grandioses. Il y a un opéra continuellement dans les portes d'Avalon, en l'occurrence, dans le film. Et derrière, il fait, donc, je crois que non, il a fait avant Ghost in the Shell, donc ce film qui parle vraiment de le ghost, donc le fantôme dans la machine, ou dans, en l'occurrence, dans la coquille. Et qui est une manière de parler de l'âme sans en parler, en fait. Il parle vraiment de l'âme, puisqu'on décide de trouver une technologie pour percevoir comment se représente l'âme dans un corps. Et le film part du principe qu'on découvre un corps inanimé, enfin un corps de robot, avec une âme dedans. Et comment l'âme a pu arriver, comment elle a pu se créer. On est au début de l'intelligence artificielle, sous la forme vraiment du développement non plus de l'intelligence, mais de l'envie de survivre et de ce qu'on appelle... l'âme, quoi. Et je trouvais ça assez intéressant aussi sur ce côté sacré que ça implique par rapport à une technologie. C'est moins le cas dans l'expo ici, mais il y avait un peu ce rapport quand même au sacré qui me fascine assez. Hein. C'est un rapport qui est de plus en plus présent, j'ai l'impression, dans la technologie. La société et la culture actuelle. Il y a cette série aussi qui... je suis désolé pour la mauvaise qualité d'image que je vous ai projetée, mais j'ai pas trouvé de très belles illustrations de cette série qui est assez intéressante, pas tout en récit, je ne sais pas si vous l'avez vu. Raised by Wolves, c'est une série qui a été proposée par Ridley Scott, notamment. Ridley Scott qui donc a continué sa quête un peu spirituelle dans la science-fiction avec cette idée de proposer, d'imaginer une planète inhabitée, une planète plutôt accueillante pour le coup. Enfin... Ça se discute.
C'est une sorte d'horrible désert.
Oui, bon, une planète, on va dire en tout cas terraformée, enfin, qui est possible d'habiter.
Ouais.
Et deux types d'individus qui débarquent dessus à deux moments distincts, mais qui sont les ersatz d'une humanité qui se bat, en fait.
En fait, il y a une guerre civile qui ravage la Terre, je crois, et du coup, c'est un peu les derniers espoirs d'humanité pour partir coloniser ailleurs. Et il y a deux clans. Alors on suit en fait des... Parce que la guerre, en fait, d'un côté il y a les mitraïstes qui sont des religieux intégristes, et de l'autre côté il y a les gars qui sont pour plus le développement de l'intelligence artificielle, les robots et tout ça. Et c'est surtout sur la question, en fait, de l'intelligence artificielle et l'existence des robots qui se fightent. Et du coup on suit deux robots qui sont partis avec des embryons humains pour s'installer sur la planète et la peupler d'humains. Et en parallèle, il y a un autre groupe de mitraïstes qui vient sur cette planète pour la coloniser. Et c'est là un peu la rencontre de ces deux clans, si je me souviens bien.
C'est bien ça, ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une esthétique, en fait, dans la série, une forme visuelle qui correspond vraiment à une espèce de Moyen-Âge propulsé dans le futur. Outre les costumes, les armures font vraiment penser... Enfin, les armures sont un mélange d'armures de cosmonautes et puis d'armures très classiques, de chevaliers, ouais. Les coupes de cheveux renvoient à vraiment une époque de croisade, et il y a vraiment cet esprit de croisade qui s'installe très vite et qui est très présent, très oppressante, en fait, tout le long de la série. Et ça, c'est un débat aussi sur lequel je m'étais, enfin, une des inspirations que j'avais, mais peut-être plus lié justement à l'époque dont ça parlait, quoi. Parce que finalement, ce qui est intéressant dans la science-fiction, enfin l'une des entrées qui m'intéresse dans la science-fiction aussi, c'est son rapport au temps, mais peut-être en temps inversé. C'est-à-dire que la science-fiction, chaque époque qui voit naître une nouvelle science-fiction, implique une science-fiction de l'époque elle-même. C'est-à-dire que la science-fiction qu'on fait dans les années 60 va évidemment pas être la même que celle des années 70, 80, 2000, etc. La science-fiction des années 60 va transmettre... les années 60 vont transmettre dans leur imagination du futur à la fois leurs craintes et leurs espoirs. Donc du coup, ça va se traduire par...
Beaucoup d'électroménager et la peur du communisme.
Exactement, ouais. La peur de la guerre froide, des blocs très séparés. On peut penser à des, pas mal à Philip K. Dick, notamment, dans le début de son œuvre, qui imaginait avec Planète Urnance Primus, notamment une planète qui serait divisée en deux entre un camp communiste et un camp américain qui se battent sans vraiment savoir ce qui se passe vraiment de l'autre côté, quoi. Et puis ça évolue évidemment d'année en année, quoi. Aussi, dans les années 80, on a plus peur du manque de pétrole ou d'un futur post-apocalyptique qui survit grâce au pétrole. La guerre nucléaire va être de mise à ce moment-là. Maintenant, on va passer plus à des choses sur l'effondrement de la planète par la surutilisation de l'atmosphère. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui évoluent. Et donc finalement, on peut voir le rapport dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une science-fiction d'une époque nous renseigne beaucoup sur l'époque qui la voit naître. Il y a un écrivain qui s'appelle Arnaud Pierre qui a fait un très bon livre à ce sujet qui s'appelle Futur antérieur où il parle du il évoque le mot de rétrocipatif ou de science-fiction rétrospective du concept de rétrospection comme du concept de comprendre une civilisation en voyant la science-fiction qu'elle a fait naître. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, c'est vraiment de voir le problème à l'envers, quoi. S'il y a tel type de science-fiction, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'époque qui imagine cette science-fiction ?
Ouais, ce qui permet de voir les valeurs auxquelles ils se réfèrent, les preuves qu'ils ont, les espoirs, tout ce qu'on projette sur le futur.
Et j'étais un peu parti de là aussi sur le travail d'imaginer à la fois un futur, mais imaginer quelle époque aurait pu inspirer ce futur-là, quoi. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce titre, hein. Il y avait cette idée dans Prospective paresseuse, donc de prospection, d'imaginer un futur, et en même temps, un futur un peu flemmard, quoi. Quelque chose qui renverrait aussi à une imagination, mais à partir de références tellement passées que ça pourrait plonger dans une autre époque.
Genre quelque chose de déjà fait, qu'on recyclerait.
Exactement, ouais. Vas-y.
Il y a aussi là, par rapport aux ruines, tout ça, on voit qu'il y a quelques restes d'une époque, quoi. Notamment le phare, là, ou les morceaux de bâche, et tout ça. C'est un peu les restes de notre époque manufacturière, quoi. Mais qui serait passé par plusieurs époques avant d'arriver là. Dans cette pièce.
Ouais, tout à fait. J'ai essayé de mettre. Elles sont assez fines, assez fines. Il y en a peu, je veux dire, des références à d'autres époques, mais il y en a quelques-unes. Il y a notamment le phare de voiture, qui est un vieux phare de très vieille voiture avec des mouches collées dessus. Je voulais jouer sur un côté reliquaire en même temps, mais pour rejouer le côté sacré. Il y a un cendrier sur une espèce de guéridon qui.
Plus personne ne fume.
Qui renvoie à une époque où on avait des cendriers un peu partout. Et puis, il y a quelques petits objets qui sont un peu dispersés sur pas mal de formes, qui sont des petits pendentifs qui renvoient à ma jeunesse, avec ces sortes de trucs un peu, soit des crânes, des serpents, des dragons, des yin et des yang. Il y a un ou deux symboles, une petite Nefertiti, ces espèces de petits pendentifs qu'on a pu voir à différentes époques. Et qui renvoie à une esthétique, une manière de se parer des années 80, 90, quoi, jusqu'à 2000, on va dire, et que je porte encore assez régulièrement sur moi. J'ai ici un peu dispersé sur certaines pièces. Tout ça aussi en référence à cette idée d'une science-fiction un peu passée, une science-fiction qui m'intéresse beaucoup, parce que comment essayer d'imaginer une science-fiction qui soit vraiment nouvelle sans imaginer le passé qui l'a vu naître. J'ai beaucoup pensé aussi à des films comme Alien, notamment. Je vous ai mis la pochette pour le souvenir. Alien, le 8e passager, rapidement, parce que je pense que tout le monde connaît à peu près ce film, est un huis clos, en fait, spatial, hein. C'est vraiment 7 personnes dans un vaisseau spatial qui se rendent compte qu'il a été contaminé par un extraterrestre. Après une découverte, bon, je passe tout le parti découverte de la planète avec le vaisseau spatial d'une autre civilisation. Et un 8e passager intervient donc dans un vaisseau spatial et crée une ambiance assez catastrophique. Ce qui est intéressant dans ce film aussi, outre ce côté très dark et très une science-fiction assez clos sur un lieu qui n'est pas du tout un lieu agréable, il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de bruit de vaisseau spatial très refermé, très resserré, avec des personnages qui très vite se retrouvent en crise, donc qui débordent, il y a vraiment des conflits qui se débloquent, qui se débloquent mal en fait sur le vaisseau. Il y a aussi vraiment un imaginaire qui correspond aux années 80 et qui est très fort. Parce que ce film date des années 80 et se passe pourtant en 2140, je crois, donc dans un futur assez lointain tout en étant assez proche. Et il y a beaucoup d'ersatz des années 80 dedans, continuellement. Donc il y a des cendriers sur pratiquement toutes les tables, les mecs fument en faisant des opérations de chirurgie dans des espèces de salles de cryogénisation. Il y a des téléphones à touche avec des cordons pour s'appeler à l'intérieur du vaisseau. Tous les instruments font blip, 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 blip. Ouais, partout.
Avec des écrans noirs qui s'affichent en vert.
Des écrans noirs. Une vraie longueur dans le temps. Et en même temps, ça fait vraiment partie de l'atmosphère. Parce que jusqu'à l'affiche, on voit cette espèce de vert et ce noir qui va être en fait tout le long du film. Hein. Les aliens étant eux-mêmes, les xénomorphes étant noirs et ayant une teinte de vert sur leur côté acide, leur côté un peu agressif. Ils ont un côté sombre, en même temps un peu verdâtre.
Oui, c'est très noir et vert. Les aliens sont noirs avec du sang vert.
Oui, c'est ça, ils ont du sang vert, acide, qui perce la coque.
Et ça me fait penser, et puis par rapport à d'autres trucs, là, donc Alien, c'est un peu les humains du futur avec leur super vaisseau et tout, qui se retrouvent en fait face à une bête sauvage, on pourrait dire. Si on prend le Raised by Wolf, c'était un peu les tenants de la robotique contre les tenants d'une sobriété technologique d'une certaine façon. Et si on veut continuer dans cette dichotomie, en regardant les œuvres, là, je me dis, il y a une sorte de dualité aussi entre la pierre et la chair. Quoi. Mm. Enfin, pierre, métal d'un côté et viande écorchée de l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a.
Ça, c'est un lien aussi que je voulais absolument faire. Enfin, ça fait très longtemps que je cherche des manières de faire jouer des formes et des matières différemment, assez différentes et de les faire fonctionner ensemble. Et en effet, je voulais jouer sur un contraste, je trouve assez fort visuellement. C'est un contraste entre la pierre ou le béton, quelque chose d'assez froid, assez industriel, qui est souvent les parties assez basses de toutes les pièces. Hein, elles commencent souvent sur une espèce d'aspect assez bétonné ou assez pierreux, assez gris, sale. Et au-dessus, tout de suite, une couleur beaucoup plus charnelle qui a l'air un peu protubérante hein, la plupart du temps. Sur la plupart des pièces, en tout cas, il y a ce côté un peu déformé. Par exemple, les deux gris que vous voyez ici et là sont vraiment un peu la représentation un peu classique de cette chose-là. J'ai pris les formes des gris de l'entrée de Vortex, enfin, l'entrée du site, et je les ai déformées. Vraiment, j'ai fait ressortir un aspect chair de ces pièces-là. Donc, là où il y avait vraiment des petits pics assez classiques, assez orientés, ici ça part en sorte de flamèche un peu molle. Et puis ici, cette pièce, un peu de la même manière, commence sur une base très, très solide, très bétonnée et dérive sur vraiment des mains, quelque chose d'assez assez charnel qui se développe et qui surpasse la pièce en fait, qui se développe sur la pièce et qui la recouvre. Et ça, c'est des références qui m'intéressent assez pour déjà des références de contraste, évidemment, parce que le contraste devient très fort. Il y a une matière qu'on n'a pas envie de toucher parce qu'elle elle semble froide et elle est en même temps assez rassurante parce que c'est ce côté un peu industriel. Et de l'autre côté, une matière un peu plus poreuse. Il y a limite un peu pelucheuse sur l'utilisation du MDF que j'ai faite. Ce médium teinté qui donc du coup en plaque fonctionne vraiment comme quelque chose d'assez assez charnel et qui permet de rajouter donc un côté un peu humain dans ces pièces et en même temps un peu sale, un peu glauque, je dirais. Ça, c'est aussi lié à un intérêt que j'ai depuis très longtemps sur un type de science-fiction aussi un peu différent et qui renvoie beaucoup au corps.
Ouais, genre Cronenberg.
Par exemple,
comme ça, ouais.
Je pense au cinéma de David Cronenberg. Notamment, voilà, c'est un des films dans lequel il développe un peu cette idée-là, qui s'appelle Vidéodrome, qui est un film très intéressant par son potentiel, encore une fois, un peu rétrospectif, puisqu'il imagine un futur où la télé a pris tellement d'importance que tout le monde a besoin d'être connecté à la télévision et des gens... Enfin, un type a développé en fait des salles de shoot de télévision pour les gens qui n'ont pas accès à la télévision, grosso modo. Donc on peut rester 2 heures devant un écran dans une pièce avec face à un écran et on voit des SDF bloqués sur des télévisions pendant quelques heures et qui prennent vraiment leur shoot avant de repartir dans la rue. Et ce type en parallèle développe une fascination pour la chair dans la télévision à travers des faux films de torture qu'on appelle les snuff movies et qui sont des films où la chair est mise en avant et représentée et surreprésentée. Et donc là, pareil, on a cette chair qui sort littéralement de la machine. C'est un travail qu'il fait dans beaucoup de films, en fait. Vidéodrome, c'est peut-être celui qui parle le mieux des années 80.
Ouais, dans Existence, il y a beaucoup ça aussi. Alors, je l'ai vu il y a longtemps, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est en gros des gens qui vont se connecter à un monde virtuel grâce à des sortes de consoles qui se branchent sur un cône vertébral. Et on se rend compte, en fait, c'est comme des poupées russes, que finalement, ils étaient déjà dans un monde, qui rentrent dans un autre monde, etc. Et on essaie de sortir, on ne sait plus vraiment à quel moment on est dans la réalité ou pas. Et il y a un peu cette alternance. Hein. Bon, je me souviens, c'est qu'il y a un univers où toute la technologie est vraiment faite de viande et d'os, quoi. Et la console, c'est une sorte d'araignée qui vont se brancher comme ça, avec un cordon ombilical tout chelou. Et après, on passe dans un autre monde où, en fait, pas du tout, c'est beaucoup plus propre et la console ça va être un truc tout en métal, super lisse, super nickel qui se pose sur le crâne et voilà, pareil, on retrouve cette ambivalence.
On retrouve, ouais, clairement, il y a une double ambivalence dans ce film, c'est à la fois cette question de à quel moment situe la réalité, comme disait vraiment quelque chose qui est devenu classique dans la science-fiction, de à quel moment une réalité est vraie, est-ce que les gens sont dans le jeu vidéo dès le début ou alors est-ce qu'ils y arrivent au fur et à mesure, plus cette question de la technologie qui change en fonction des univers dans lesquels ils se trouvent, et on ne sait plus vraiment s'ils se sont branchés à une machine, s'ils ont posé une machine sur leur tête, quelle est la forme de la machine. Et ça se retrouve dans beaucoup de films de Cronenberg, finalement, ce côté un peu charnel qui ressort.
Ouais, dans le Festanu, la machine à écrire qui se transforme en scarabée.
Tout à fait, ouais. Je sais plus si j'avais pris une image, il me semble, du Festanu, mais voilà, j'ai pas enregistré. Mais le Festanu est aussi un film, et avant un livre, qui est très intéressant sur cette question de la chair. C'est un livre de William Burroughs, à la base, qui est un livre assez, assez particulier, puisqu'il est très cru, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est une suite d'informations qui parle à la fois de drogue, d'homosexualité, de viol, de chair, de mise en scène d'un monde, d'un univers qui correspond au Moyen-Orient, parce qu'il a vécu un moment
à
Tanger, et qu'il a commencé à être drogué jusqu'à la moelle quand il y était, clairement. Et il a mêlé tout ça avec son univers fantasmagorique personnel.
Et je crois que c'est avec ce bouquin aussi qu'il a commencé le cut-up. Genre, il a écrit l'histoire, enfin, il a écrit plusieurs histoires, après il a tout découpé, il a recollé dans un sens aléatoire. Il a dit, ouais, allez, faites-vous plaisir avec ça.
Et en fait, personne ne se fait plaisir avec ça, hein, parce que c'est vraiment...
Si tu le prends vraiment comme un rêve, t'avances, il y a des images qui succèdent, ça n'a pas forcément de sens, t'essaies de comprendre, ça passe à autre chose, t'as oublié déjà ce qu'il y avait avant, t'arrives sur autre chose. Enfin, il faut le prendre comme une expérience, quoi, pas comme une histoire.
Il est très compliqué à lire, il est fascinant en même temps, parce qu'il il va beaucoup trop loin, très vite.
Ouais, il va très loin dans toutes sortes de trucs. Quoi.
Et en même temps, il y a cette présence de la chair qui est à la fois une chair érotisée, une chair aussi très...
très martyrisée.
Très martyrisée, qui est assez fascinante, et ça me fait penser...
Et Cronenberg a fait une super adaptation. Quoi.
Cronenberg a fait une super adaptation.
C'est incroyable de pouvoir adapter ce bouquin en film.
Parce que le bouquin n'a pas vraiment de sens, et Cronenberg a fait vraiment le parti de choisir de l'adapter en prenant en même temps la vie réelle de William Burroughs.
Ouais, en train d'écrire le livre.
En train d'écrire le livre et de se perdre dans ses méandres.
Et là, pareil, on retrouve encore cette question de à quel moment c'est la réalité, à quel moment il est dans un trip, à quel moment il est drogué, il est dans l'histoire.
Et tu parlais de la machine à écrire, mais sa machine à écrire se transforme peu en peu en une sorte de scarabée.
Qui lui réclame de la drogue.
Il y a ces créatures étranges qui sont les Moomboom, qui sont complètement assumées dans le livre comme dans le film, comme étant des créatures qui habitent à Tanger de manière générale et qui sont des sortes d'extraterrestres assez disgracieux qui ont des sortes de sexe sur la tête qui crachent d'une espèce de liquide par lesquels les gens se nourrissent pour être drogués, qui renvoie un petit peu en fait à l'épice hein, finalement. Et ce mélange un peu gênant de sexualité, d'érotisme, de drogue, et un rapport évident à la chair aussi, ça me fait, je rebondais un petit peu sur, sur Carpenter et The Thing, qui a aussi ce rapport à une autre manière de voir l'alien, tout aussi dégueulasse, hein, je dirais, que celui de Ridley Scott.
Beaucoup plus dégueulasse que celui de Ridley Scott.
Oui, encore plus dégueulasse, puisque là, c'est un alien qui utilise la chair comme un vaisseau et qui la
modèle, qui la fusionne, qui la fait muter. En fait, on ne sait même pas vraiment ce que c'est que l'alien. Au fond, c'est une sorte de virus qui va coloniser les êtres vivants et en faire des monstres pour aller coloniser d'autres êtres vivants.
Vraiment, comme la rage, mais qui se développerait sur, physiquement, quoi. Et je voulais un peu partir sur ces différentes notions, ces différents aspects de la chair mis en scène, alors toujours avec ce côté légèrement érotisé, parce que je pense aussi à, je vais vous mettre la pochette, puis je reparlerai après peut-être un peu plus en détail. Je pense aussi notamment à Crash, le livre de Ballard, qui est un livre assez particulier dans l'histoire de la science-fiction, surtout dans l'histoire de l'écriture de Ballard, où il fait un choix assez étrange de parler d'une société qui n'est pas vraiment, on ne sait pas vraiment quand ça se passe, mais qui est une société très liée à la voiture, qui pourrait vraiment se retrouver dans le Los Angeles des années 70-80, quoi. Et avec, en fait, toute une partie de... Enfin, plusieurs personnes qui développent une érotisation et tout un délire autour de l'accident de voiture. Et à travers l'accident de la voiture, aussi bien de la matière inerte qui se fait broyer que de la chair qui se fait broyer aussi.
Et de comment après ils se mettent des prothèses une fois qu'ils sont handicapés pour ils se retrouvent pareil entre le métallique et la chair qui fusionne.
Et ce rapport là, je pense que ce rapport qui a un rapport aussi à la science-fiction qui est assez qui commence à être un peu daté, mais m'intéresse énormément sur ce contraste très fort entre une civilisation électronique et informatique qui se développe et qui amène à de plus en plus d'aseptisation finalement, enfin un côté de plus en plus froid de la technologie.
Ce qu'on appelle faussement une dématérialisation.
Qu'on appelle la dématérialisation complètement, ouais. Et ce rapport au corps qui persiste malgré tout, parce que bon, on est toujours lié à la technologie par notre corps. Et une chair protubérante, parce que la chair, on voit forcément à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, contrairement à la technologie où, à partir du moment où on a un iPhone, c'est la représentation la plus. La plus marquée de la technologie, l'iPhone est vraiment quelque chose qui est bloqué sur sa forme et la forme est retenue à l'intérieur, il n'y a rien qui peut sortir, il n'y a rien qui peut se transformer. On ne peut pas faire modifier un iPhone pour le rendre plus performant. Non, il est vraiment bloqué sur quelque chose d'assez assez rigide et un monolithe, quoi.
Ah, et puis esthétiquement, ouais, voilà, c'est vraiment le rectangle lisse, obscur. Qu'il n'est pas allumé, c'est juste. C'est le monolithe de 2001. Quoi.
C'est le monolithe de 2001 complètement. Ouais. Et jouer entre ce monolithe, cette forme très rigide, très marquée, comme je peux le faire avec ces différentes pièces qui pour moi, évoquent vraiment le côté industriel et le côté très froid et rigide que peuvent être les matières liées à l'industrie dans les années 80-90. Et là, qui déborde complètement de chair, ça me paraissait intéressant pour justement faire un rapport à la fois au passé, à la fois à un futur prospectif, quoi.
Mmh. Ouais, puis à la limite, on peut dire que ce rapport entre ce qui est manufacturé et ce qui est naturel, c'est une question qui devient de plus en plus prégnante, à laquelle notre société, qui est justement misée sur le développement technologique, se retrouve à faire face, quoi. À des limites où les deux commencent à avoir du mal à coexister, quoi. Qu'il va falloir choisir. Et que, en fait, on reste vivant malgré tout, on se rend compte qu'on n'a pas trop le choix.
Clairement. On a un peu évoqué le rapport au sacré aussi. Vas-y, si tu veux. Je bois un verre d'eau. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez. Enfin, là, c'est vrai qu'on parle tous les deux. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez envie.
J'ai une question. C'est hyper intéressant, mais de toute façon, vous êtes très très loin en même temps des pièces qu'on voit. Et moi, la question que je me pose, c'est d'entrée de jeu, pourquoi vous ne parlez pas plus des pièces en termes plastiques, en termes de choix de matériaux? Est-ce que je trouve qu'il y a une distance entre l'image que vous faites des choses et puis la réalité?
Ok.
Et ça me gêne un tout petit peu par rapport au fait que vous proposez une exposition pour vous qui est immersive, et en même temps vous êtes constamment dans un rapport à l'image, à quelque chose d'extérieur. Vous parlez de la chair, mais pas dans la chair pour moi. Vous parlez du béton, mais on n'est pas dans le béton. Vous êtes que dans l'artefact tout le temps.
Oui, clairement.
Donc ça m'intéresserait que vous reveniez sur l'utilisation que vous faites des matériaux, la manière dont vous pensez, vous, plastiquement les choses, et en étant un tout petit peu coupé de vos références.
Ok, allons-y. Déjà, je pense que si je parle beaucoup de mes références, parce qu'elles me nourrissent continuellement, c'est le rôle de tout travail d'artiste, d'être nourri par ce qu'il y a autour de soi. Après, toutes les références que je peux avoir évoquent un peu la base, c'est la base directe de pourquoi je produis ces pièces-là. Donc ça veut dire que ça ne représente pas, évidemment, techniquement ce que j'ai fait, mais peut-être plus pourquoi j'ai décidé de faire ça techniquement. Donc, à la base de la technique, il y a forcément mes références. À côté de ça, donc si on va parler des matériaux et des formes elles-mêmes, si vous voulez. Donc à la base, je travaille beaucoup le bois. Et c'est quelque chose qui m'intéresse par son rapport à la fois historique, par sa dureté, sa possibilité d'être utilisé de différentes manières, de pouvoir se combiner. Et puis c'est une matière assez intéressante à la fois pour son côté vivant et puis parce qu'on peut toujours modifier et transformer quelque chose à partir de bois. Il y a quand même ce potentiel assez facile du travail du bois. Et là, depuis un certain temps en fait, et à partir de, dans cette exposition notamment, j'ai utilisé quelque chose qui n'est pas vraiment du bois, qui est une matière beaucoup un peu moins liée au bois, mais qui est quand même assez liée. C'est du médium teinté. Donc du médium teinté, c'est des plaques de cire en gros compressées dans lesquelles on a fait un bain pour lui donner cette couleur particulière et qui est entièrement de la même couleur aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Toutes les pièces sont faites de la même manière, c'est-à-dire toutes ont été faites à partir de ce médium teinté, à part évidemment les pièces en fer et tous les éléments qui viennent se rajouter dessus de différentes manières. Toutes les pièces sont donc en médium teinté et ont été travaillées à la meuleuse, notamment à la meuleuse droite, c'est un outil un peu plus long, un peu plus fin qui me permet de rentrer un peu plus dans les détails. Et j'essaie de multiplier les techniques sur à peu près toutes les pièces, à la fois parce que ça m'intéressait de jouer un peu sur des rapports formels où on voit le lien entre chacune et en même temps que chacune ait son individualité au niveau du travail. Donc si vous faites le tour et que vous regardez les motifs qui se développent sur chaque pièce, vous verrez des motifs assez différents. Faits de la même manière mais différents dans le traitement. Au niveau des pièces elles-mêmes, donc si le lien en fait que je fais avec mes références directement, c'est que toutes les pièces font quand même référence à mon travail. Toutes les pièces plastiquement font référence à mes références directes. Cette pièce s'appelle Cheyoulou, donc le nom que je donnais au vert des sables de Dune. Cette pièce que j'ai appelée Nostromo ou Offrande, parce qu'il y a cette question de donner quelque chose qui renvoie aussi bien à un cadeau un peu empoisonné, mais cette main qui tend quelque chose qui... quelque chose qui est assez présent dans mon travail, vous verrez plusieurs mains et dans l'exposition et dans le reste de mon travail si vous regardez, et qui s'appelle Nostromo en référence au vaisseau spatial où se passe le film Alien, parce que cette main renvoyait quelque chose pour moi à la fois de quelque chose assez organique et puis, comme on disait, assez dérangeant en même temps. C'est pas une main humaine, c'est une main un peu surdimensionnée avec les doigts qui partent dans différents sens et qui en même temps a cette espèce de volupté un peu agressif quoi. La pièce derrière qui est plus liée à un tombeau est vraiment liée aussi à mes références gallo-romaines, parce que je parle beaucoup d'histoire, mais comme je vous disais, je tiens à ce que mon histoire soit liée, enfin mon rapport à la science-fiction soit lié aussi à mes références directes, et je voulais partir sur quelque chose de très simple qui est un bas-relief, tout simplement un bas-relief qui renvoie un peu au tombeau, à quelque chose d'assez gallo-romain finalement au niveau de la forme, et en même temps à ces affiches que l'on voit dans les usines, qui sont des affiches de la...
Comment s'appelle l'œuvre ?
L'œuvre s'appelle IRNSM. Je ne me souviens jamais de l'ordre. IRNSM.
Ouais, IRNSM.
IRNSM, pour en renvoyer à ces affiches qui sont des affiches de prévention de la sécurité dans les usines, donc des affiches souvent avec des doigts coupés, ou alors faites attention à vos yeux, faites attention à vos masques. Ça me rappelle que je dois rendre un livre à quelqu'un que j'ai complètement et du coup, là, de jouer sur cette matière-là, cette matière inerte d'un côté qui devient beaucoup plus vivante de l'autre côté de la pièce. On la voit ici, donc dans son partie assez sombre, assez grise, et de l'autre côté, on voit beaucoup plus de rouge, et les doigts qui semblent avoir été coupés sur le côté gauche deviennent exubérants du côté droit. Voilà, ça c'était une des bases de ce travail-là. Et après, il s'est développé aussi sur une question donc, d'artefact, comme vous disiez, parce que ce que je veux renvoyer, c'est non seulement ce que moi j'imagine en tant que correspondance entre la chair et puis le béton ou la pierre, etc. Mais c'est des références que je vais, en ne pouvant pas faire ça directement, évidemment, si j'avais les possibilités, j'aurais vraiment mis de la chair sur du béton ou j'aurais joué sur un aspect beaucoup plus marqué. Là, ce qui me paraissait évident de pouvoir faire avec mes moyens et mes technologies et mon savoir-faire, c'est de jouer sur quelque chose qui renvoie plus au décor, donc en effet à l'artefact. Il y a dans l'idée de quelque chose d'immersif, dans la manière dont je l'imagine, une référence à quelque chose de presque d'un décor de cinéma. Quoi.
Ouais, ouais. De jeux vidéo, il visait un peu un truc à la Diablo.
Oui, ou alors de jeux vidéo, qui renverraient aux années 80, ou tous ces. Je ne sais pas si vous connaissez le mode du jeu qu'on appelle Real Player. RPG, c'est. Non,
Role-playing
game. Merci. Le système du RPG qui implique d'avoir un joueur. Vivant dans un monde qui est complètement différent, évidemment, avec des personnages qui interviennent et qui discutent avec lui pour lui proposer en général des quêtes qui vont lui permettre de trouver de nouveaux objets puissants, qui vont lui permettre d'être plus combatif et de pouvoir aller faire de nouvelles quêtes qui vont être de plus en plus puissantes, etc., etc. Et tout ça se passe en général dans des décors qui correspondent donc à une ambiance soit très heroic fantasy, donc quelque chose d'assez marqué avec des civilisations antiques, soit souvent il y a une science-fiction aussi, il y a vraiment un système de jeu assez codifié. Et là, je voulais jouer sur cette notion-là, de faire un décor qui soit assez marqué, assez référencé à des potentiels cultes obscurs, à un décor et en même temps presque une quête. C'est quelque chose que vous pouvez voir aussi en lisant le texte qui est lié à l'exposition, qui commence sous la forme d'une quête très classique, avec une sorte d'injonction à retrouver un objet magique, vraiment de la manière dont on peut le trouver dans la plupart des jeux vidéo des années 90 qui sont de ce type RPG, et une quête pour trouver un objet magique dans cet environnement. Et c'est là... 2000, pardon. Et c'est là où j'essaie de faire quelque chose d'assez immersif, en mettant des pièces assez imposantes, assez grandes, assez massives, du moins la première qu'il y a sur laquelle on tombe dès qu'on arrive est assez forte et assez marquée, et toutes les pièces finalement... absorbe des petits éléments, des petits détails, des coquillages avec des éléments en latex, des éléments qui renvoient au sacré, selon moi, mais on en reparlera peut-être aussi, et puis des éléments qui sont dispersés dans des coins, à différents endroits de la pièce, et qui, pour moi, permettent d'avoir un côté un peu ludique, un peu de recherche de ces éléments, de recherche d'informations, et donc de rentrer dans un système un peu de jeu, et d'avoir ce truc un peu de immersif, que j'espérais donner en tout cas en créant cet environnement avec cette terre, ces différents objets qui se renvoient les uns aux autres et qui n'est pas vraiment un accrochage de telle pièce au mur, telle pièce au sol, mais que tout corresponde au niveau des teintes, des couleurs et des formes.
Tu en parlais des éléments organiques qui amènent un côté sacré aux pièces. Là, je me demandais par rapport au liquide physiologique. Qui est un peu le substrat de tout être vivant, quoi. Donc là, encapsulé dans du plastique et tout.
Enfin, alors, le rapport, oui, c'est vrai que vous avez peut-être vu que dans la plupart des pièces, sur la plupart des petites pièces en tout cas, il y a des petites capsules de sérum physiologique qui sont mêlées avec du latex, quelque chose pour le coup un peu organique, et mélangé avec de la céramique souvent. C'est parti, en fait, je voulais faire des pièces qui renvoient à la fois quelque chose d'assez sacré, ou du moins un peu parasité, avec des formes un peu rococo, parfois un peu baroque, plein de références liées à différentes manières de représenter une sorte de design lié à des époques révolues, et j'ai ajouté à ça du sérum physiologique, sous la forme qu'on connaît tous et toutes de pipettes, parce que bon, le sérum physiologique a vraiment pris une place très importante dans la vie de tout le monde, hein, qu'on ait des problèmes d'œil, qu'on porte des lunettes, qu'on aille en manifestation, qu'on ait des enfants, enfin, on a tous et toutes du sérum physiologique qui traîne à un moment, donc on est assez près de cette capsule. Et en même temps, ça renvoie pour moi, en tout cas, à quelque chose qui pourrait correspondre à l'eau de Lourdes, qu'on ramène de Lourdes sous les petits flacons et qu'on offre et qu'on a vu pendant très longtemps un peu de partout chez tout le monde. Là, ce sérum Phi reprend ce côté liquide, un peu sacré, un peu lié à aussi une opposition finalement entre la relique et le reliquaire tel qu'on l'imagine, qu'on le voit dans un musée d'art sacré, où on a quelque chose d'assez massif, souvent précieux, du métal, du bois, du fer et de l'or et des pierres précieuses qui enferment finalement une dose beaucoup plus humaine, de la chair et du sang et des os, hein, en général. Ouais,
un os tout sec.
Un os tout sec, plus précisément. Ouais. Et là, ça faisait un peu la même chose en inversé finalement. Je voulais faire quelque chose qui soit très organique, ou du moins très lié à la nature avec ces objets en céramique et à l'intérieur un liquide très stéréotypé qui serait cette eau.
L'eau bénie du futur.
Ouais, l'eau bénie du futur, clairement. Et puis je pense que j'ai été un peu inspiré par Dune, encore une fois, où l'eau est très peu présente et donc vraiment une sorte de richesse infinie dans tout le long du bouquin. Les gens souffrent du manque d'eau.
Ouais, c'est la richesse absolue.
C'est la richesse absolue, c'est le fait d'en avoir, quoi. Est-ce que j'aborde les points un peu liés aux pièces de manière plus
correcte? Oui, c'est une question que je pose. Je sais pas, quand vous parlez du sacré, qu'est-ce que c'est le sacré pour vous?
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le sacré? Qu'est-ce qui représente
parler du sacré, ça veut dire quoi le sacré?
C'est pas la question.
Vous parlez d'un hôtel, on peut le voir comme un hôtel, mais au niveau du format, on est plus proche d'un coffre, même de l'apparence physique du coffre que de l'hôtel. Mais pour vous, c'est quoi cette dimension de sacré? Alors, on comprend bien, vous apportez des éléments, mais en même temps, dans ces petites fioles, il n'y a pas des éléments qui ont un caractère sacré. Vous leur donnez cet élément.
Bien sûr. Bah, le but de le...
C'est pour ça que vous revenez par rapport à ça, vous citez des choses, mais en quoi le sacré est invoqué là? C'est l'image que vous faites, c'est une projection, mais en quoi vous pensez que les spectateurs vont être vraiment face à une proposition qui incarne l'idée du sacré?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs indices qui sont peut-être perceptibles sur pas mal de pièces, mais peut-être pas pour tout le monde, visiblement. C'est peut-être que j'ai surjoué sur certaines données qui me paraissent un peu liées au sacré, mais un peu injectées à différents endroits et sur différents niveaux. Il y a, alors, si je donne des indices un peu généraux, donc il y a ce rapport, je trouve en tout cas, à la relique qui apparaît sur plusieurs pièces, au reliquaire, à l'offrande sur cette pièce-là. Les grilles sont le support de morceaux de bâche qui sont globalement des morceaux de bâche qu'on peut le voir partout, mais j'ai essayé de jouer aussi sur quelque chose lié au drapé, lié à la représentation du drapé, de faire des drapés qui pourraient évoquer une histoire de l'art peut-être médiévale ou une manière de représenter le médiéval de manière générale. Et puis l'insertion d'objets assez régulièrement à différents niveaux sont pour moi la manière de les sacraliser. Si j'ai mis cette forme de mute serpent bien en évidence, bien au centre de la pièce, je trouve que je lui donne une importance un peu vitale, enfin un peu indispensable à l'ensemble de l'exposition, qui du coup la place tout de suite dans une zone sacrée plutôt que si je l'avais mis dans un coin. C'est le cas en fait des deux étages, enfin cette étagère-là qui a cette peau de serpent qui est positionnée dans un certain coin, qui est en fait un peu vide, qui est très libre, cette étagère, si ce n'est la peau de serpent, et puis de la même manière, ici, ces deux, trois éléments qui sont cette peau de serpent à peu près centrée sur ce que j'appelle un hôtel, et ces deux sortes de verres très artisanales qui semblent être le témoignage, en tout cas, de quelque chose qui s'est passé, et en même temps, potentiellement un calice, potentiellement un objet de culte. Je pense que juste, la manière dont je vois les choses, c'est qu'en injectant à certains niveaux des petits éléments, des petites notations, j'arrive à donner du sacré à des pièces qui ne le sont pas forcément de manière naturelle. C'est un peu aussi le cas avec la pièce qui est au fond, qui est remplie à moitié d'eau, qui reprend un peu la forme d'un bénitier finalement. Et quand on regarde à l'intérieur, il y a des pièces que j'ai mis, en fait j'ai mis à la base quelques pièces à l'intérieur, en me disant, j'ai toujours été un peu fasciné par le fait que les gens mettent des pièces dans des endroits où il y a des trous d'eau et qui mettent justement une dose de sacré dans un endroit qui n'est pas forcément fait pour. Et en mettant quelques pièces, je me suis demandé si ça allait donner du sacré à la pièce et si des gens allaient rajouter quelque chose de sacré à ça. Et ça a marché, parce qu'il y a plus de pièces que quand je suis arrivé. Donc des gens ont vraiment mis des pièces à l'intérieur en disant « Ah tiens, c'est ce qu'il faut faire, quoi. »
Présentation d'Hermès.
Non, alors peut-être que je me trompe. Bref, c'est, en fait, c'est, vous voyez, la période à Athènes où on a décidé de ne plus avoir de représentation, c'était des choix. Si on faisait une nouvelle statue, enfin, en gros, les honneurs étaient pris, c'était des décisions prises par les citoyens. En assemblée, tout le monde ne pouvait plus produire son propre culte, alors sinon c'était dans le privé. Donc les colonnes arméiques, c'était évidemment j'ai pas le nom de la bataille parce que c'était un très bon exemple, mais il y a trois généraux athéniens qui ont gagné une bataille contre des Péas comme la. Ouais, et en fait, les gars ont gagné, ils ont sauvé les Grecs, hein, comme d'hab. Mais plutôt que de faire une statue honorifique avec le mec à cheval, le nord suprême, en fait, c'est trois colonnes arméiques qui avaient le dessus. Et en fait, cette question du sacré, donc là, moi, je pense qu'elle intervient sur leur. Enfin, en fait, il y a un sacré municipal, je suis désolé, c'est un peu vulgaire dit comme ça, mais il y a. Là, chez les Grecs, on restaurait les œuvres parce que, en fait, c'était une question. Enfin, il y avait un truc, hein, je suis désolé, je suis très confus.
pas de soucis, non, ça va.
Il y avait un tout, en fait. On restaure une œuvre parce que, déjà, il y a une question de représentation, c'est la représentation de la cité. Si l'œuvre est en mauvais état, ça veut dire que le prestige de la cité n'est plus là. Après, il y a une question proprement sacrée, puisque la cité, en fait, c'est un truc qui est beaucoup plus important que l'individu en lui-même. Du coup, c'est pour ça qu'on a eu tous ces trucs. Enfin, voilà. Bon, est-ce que vous voulez que je continue ou est-ce que vous voulez
pouvoir... Non, pas du tout.
Mais voilà, et donc du coup, donc sacré municipal, c'est moche, ça n'existe, enfin, je viens de le dire, c'est pas. Non, voilà, du coup, moi je trouve que ça fonctionne, enfin, en tout cas, puisque moi j'ai pu me faire ce récit.
Donc vous avez vu du sacré.
Ouais. Merci.
Après, je pense que oui, la manière dont j'essaie de distiller le sacré est aussi liée à mon prisme à moi, et donc c'est pour ça aussi que je parle beaucoup de références qui sont. Peut-être un peu lourde, où j'ai donné beaucoup d'informations, enfin on a donné beaucoup d'informations sur des références à des films, à des bouquins, ou à des choses qui se distillent de manière très légère dans l'ambiance générale du lieu, mais je pense que comme le sacré intervient depuis toujours sous différentes formes, et pour beaucoup de. Enfin, dans la majorité du monde judéo-chrétien, on va dire, de manière. Très différente et en même temps très compréhensible. Je pense qu'il y a vraiment des petites représentations à donner, des petites choses qui m'ont permis en fait de juste l'insuffler ou essayer de l'insuffler pour que l'ambiance soit là, sans que vraiment je donne trop d'indications sur ah bah là regardez j'ai essayé de représenter un ange ou ici j'ai essayé de représenter tel type de croix. Enfin, c'est et je le fais encore une fois par mon prisme de ce que je vois dans une science-fiction qui évoque le sacré, mais à différentes formes, sous différentes manières. Quand on parlait bah, par exemple du sacré dans la science-fiction, et tout l'aspect sacré, toute la manière de voir la science-fiction, une science-fiction un peu peut-être agressive, puisque c'est ce qui m'intéresse finalement, c'est d'imaginer une science-fiction qui soit pas très agréable à vivre, et qui correspondra à ce qu'on appelle... La dark fantasy, c'est vraiment un univers fantastique, mais assez glauque, assez lié à un Moyen-Âge difficile, décadent, quelque chose d'assez... assez
Sale.
Le terme, c'est sale. J'essaie de, bah, déjà de me plonger un peu là-dedans, hein, on en a un peu parlé aussi, de cette manière de voir, dont on pouvait voir le Moyen-Âge à différentes époques. Tu me disais d'ailleurs très justement que le Moyen-Âge, c'est un peu le futur post-apocalyptique de
l'Antiquité.
De l'Antiquité, oui, il y a vraiment ce truc où...
Ouais, c'est ça. Enfin, tu montres... tu montres l'an 800 à un Romain du 2e siècle, il va avoir l'impression que, enfin, comme nous, on nous montre Mad Max, quoi. Il y a une sorte d'effondrement, il n'y a plus rien de ce qu'il connaît, de la civilisation, de l'État, tout ça. Tout ça a disparu, c'est plus que des bandes qui survivent par la violence et le pillage. J'exagère.
Mais il y a quelque chose qui est beaucoup... Il y a un peu un truc comme ça, et ça a été pas mal mis en scène d'ailleurs dans pas mal de films, hein, on en a parlé. Bah, je pense à It's Hard to Be a God, qui est un film de 2014, qui parle d'un Moyen-Âge futuriste, puisque c'est des personnages qui... Enfin, un type qui arrive sur une nouvelle planète et qui se rend compte que c'est une planète moyenâgeuse, enfin, ouais, vraiment moyenâgeuse dans le mauvais sens du terme, qui est donc gérée par des sortes de baronnies avec beaucoup de gens qui sont en palais, qui fait beaucoup de neige, beaucoup de crasse, beaucoup de gens pauvres, et vraiment une esthétique qui correspond au Moyen-Âge tel qu'on le voit nous maintenant, enfin, tel qu'on l'imagine en tout cas, qui n'a rien de science-fiction finalement. Et il y a beaucoup d'auteurs, souvent liés au Pays de l'Est, qui ont travaillé sur cet aspect-là. Il y a un film assez intéressant qui s'appelle The Navigator Medieval Odyssey, qui, donc je vous montre l'affiche rapidement, mais qui reprend un peu cette idée, mais avec avec des personnages qui se retrouvent dans notre époque, enfin le monde des années 80 plutôt. C'est une sorte, ça renvoie un peu aux visiteurs, mais en version hard. Et il y a un autre film qui s'appelle On the Silver Globe. Enfin, il y a plusieurs films, voilà, qui évoquent le Moyen-Âge depuis une science-fiction, mais teinté, quoi. Et je trouvais ça intéressant justement de partir de ce rapport à pas forcément à la science-fiction pour le coup, mais au fantastique, la manière dont on imagine on imagine déjà, on arrive à imaginer un fantastique dark, un fantastique très dur, très agressif. Il y a beaucoup de romans, beaucoup de films et beaucoup de choses qui font référence, et même dans les grands classiques comme dans Tolkien, il y a forcément des passages très dark, il y a forcément des civilisations qui sont hyper agressives et qui renvoient vraiment à quelque chose de dur. Et ça existe moins dans la science-fiction. Enfin, c'est moins présent, il y a moins ce côté, justement, sacralisé d'un univers de science-fiction qui serait assez agressif.
Ouais, quand même, tu prends des trucs comme Alien, ou Event Horizon, dont on parlait. Donc, Event Horizon, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un film des années 90 où il y a un vaisseau spatial qui avait disparu des années auparavant, qui ressurgit, et une mission est envoyée pour voir, et puis en fait, il retrouve... l'équipage complètement fou et mutilé, et en fait ils se rendent compte qu'ils sont passés par l'enfer dans des dimensions parallèles. Enfin, c'est extrêmement sombre. Il y a vraiment une dark SF qui existe aussi.
Il y a vraiment, mais il y a peu de films finalement qui évoquent ce côté-là. Enfin, je trouve, il y a peu de références.
Premier Contact, c'est un peu sur
Premier Contact.
Le dernier film, à l'avant-dernier film.
Ouais, un peu moins. Il y a un côté d'incompréhension avec une. Il est beaucoup
c'est
plus plein.
C'est porté sur la communication quand même.
Ouais, c'est pas très sombre, Premier Contact.
Je trouve que l'ambiance
L'ambiance est assez grise et...
métallique, et très métallique.
Ouais.
Ce qui est quelque chose qui revient dans pas mal de films de Villeneuve depuis, hein, notamment, je sais pas si vous avez vu Dune, mais il y a vraiment dans Dune, il y a vraiment cette histoire de planète et de civilisation où on a quelque chose qui pourrait être très lié à des grands extérieurs, à des personnalités, qui finalement est complètement écrasé par une technologie qui est surprésente, qui joue presque le rôle d'être vivant dans le film, parce que tous les éléments sont surdimensionnés, font beaucoup de bruit, des bruits d'insectes presque, et on a vraiment l'impression de voir des individus qui évoluent dans des immenses décors de vaisseaux spatiaux monstrueux, qui se posent, qui redécollent, qui interagissent avec l'homme de manière très frontale, très environnementale. Ouais. Et l'homme reprend une place de fourmi finalement face à un univers... qui l'écrase complètement, quoi. Et ce rapport justement à comment représenter ce sacré dans un futur, j'essaie de le faire aussi à travers ces machines-là, à travers ces objets un peu plus agressifs. Je pense par exemple à des petits détails, mais cette ornementation qui est en haut de la cheminée, là, cette partie en métal pointu qui se retrouve aussi sur sous la présentation des différentes mues. Ou bien ces objets un peu post-apocalyptiques, hein, pour le coup, de verre mal soudés, mal défraîchis, qui sont vraiment très artisanales finalement, et qui pour moi renvoient, voilà, aussi bien au post-apocalyptique de Mad Max qu'à un univers un peu sombre où la chair, encore une fois, revient sous une forme un peu plus gothique, un peu plus... gothique, pas dans le sens du style gothique, mais plus dans le sens...
Au sens victorien.
Voilà, au sens victorien, au sens... au romantisme du gothique qu'on a pu avoir à l'époque victorienne, quoi. Est-ce que vous avez des questions même si on...
Non, mais je voudrais bien rajouter quelque chose par rapport, toujours pour rebondir sur cette dimension du sacré, parce que c'est, en fait, c'est une question très compliquée que vous voulez poser.
Qu'est-ce que le sacré Il y a plusieurs livres écrits là-dessus, ils n'ont pas tous répondu.
Vous avez posé deux questions qui sont très très différentes, vous les posez à la suite, c'est intéressant parce que vous avez posé la question qu'est-ce que le sacré. Donc là, on peut sortir un Larousse ou un Robert, ou un... et après, vous avez enchaîné, vous dites qu'est-ce que le sacré pour nous. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas deux personnes dans cette pièce qui vont donner la même définition du sacré lorsqu'elle est subjective. Voilà. Et en fait, j'ai pas l'impression que ça a été évoqué. Mais moi, la première chose que j'ai vue en rentrant dans cette exposition du vernissage il y a quelques semaines, moi, j'ai vu une espèce de référence directe à un cimetière. Donc on est dans un paysage de désolation, on est dans un paysage de mort. J'ai davantage vu d'ailleurs le lien au cimetière qu'à la science-fiction, et on est presque... Alors parfois la limite est ténue, mais moi je serais plus dans une anticipation que dans une science-fiction en fait. Moi c'est ce que je vois avec mes yeux et ma culture. Et en fait finalement le cimetière, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré? Parce que dans un cimetière il y a le sacré religieux, la spiritualité, parce qu'on va avoir des signes religieux de différents acabits, mais il y a aussi le sacré profane, le sacré païen presque, parce qu'il y a aussi des objets, une tombe est une sacralisation de l'âme dans le sens où c'est ce qui va rester, et sauf qu'il y a des tas de tombes qui ne sont pas religieuses. Et ce que je trouve intéressant, moi, là-dedans, c'est qu'on va avoir plein de petites références à une culture pop, on le voit partout, mais il y a quand même cette chose qui est un sacré non religieux. Et ça, je trouve que c'est assez fort, finalement, à souligner. Et je trouve que dans la démarche de Cédric, c'est assez fort, parce qu'il a réussi, là, à nous présenter des pièces qui ne sont pas religieuses, mais qui pourtant peuvent évoquer le sacré dans, on va dire, l'inconscient collectif. Donc moi, c'est comme ça que je lis le sacré ici.
Je crois qu'on a tous des prismes qui sont différents. Effectivement, le sacré que vous exposez, il est propre à nous, voilà, c'est vraiment notre connexion qu'on a à l'œuvre. Je trouve ça intéressant des mains en fin de compte. Je découvre l'expo. Je me disais, ouais, le sacré, ça me faisait penser à ce qu'on trouvait dans les églises. Donc on voit les peintures et on voit. On voit tous des personnes un petit peu avachies, on voit des tableaux avec la main qui, voilà, ses mains un petit peu gonflées, voilà, trincare et tout ça, et donc qui tire vers Dieu, vers le Christ et tout ça. Voilà. Donc ça, c'était des représentations. Alors, je me disais, bon, tiens, ouais, voilà, le sacré, hein, c'est bon, le côté tableau, le côté fondable.
Ouais, le mausolée.
Voilà, c'est ça. C'est,
et puis même l'univers chromatique, on est.
C'est vrai que je l'ai peu évoqué, mais l'aspect cimetière était vraiment une des jetées bases aussi de ma recherche. C'est que je voulais sur quelque chose d'assez simple, et la terre participait aussi à ça, partir sur des formes très brutes, très contrôlées au niveau de l'aspect, et qui sont souvent superposées, quelque chose d'assez assez systématique, parce que c'est quand même la base de la manière de produire la sculpture, c'est de superposer des couches, hein, mine de rien, on voit ça depuis... Depuis très longtemps, l'un des artistes qui a le plus joué là-dessus, c'est peut-être Brancusi, qui a vraiment enchaîné des superpositions de formes sans les hiérarchiser finalement, puisqu'il décidait de mettre du bois très important, enfin de manière très mise en scène, sous une forme de socle, pour montrer une pièce vulgairement faite en plâtre, entre guillemets. Donc, mais vraiment cette idée de superposer des couches. Et mine de rien, le cimetière et les formes qui se développent dans un cimetière, si on les prend en les sortant pour le coup un petit peu du sacré, ont vraiment cette espèce de hiérarchie très forte de mettre une dalle sur une autre dalle sur laquelle va apparaître une sorte de tombeau, sur laquelle on va mettre une croix, sur laquelle va être mis encore un détail, et potentiellement des objets profanes, des pots de plantes, des cartels avec marqué des choses dessus, ou des objets de la personne qui se trouve à l'intérieur. Tous ces objets en fait participent à une sorte de parc de sculpture assez étrange et très sacré, mine de rien, oui, mais qui peut se reproduire sous différents aspects, sous différentes formes, et qui va évoluer énormément avec le temps. Mais donc du coup, j'étais un peu parti sur cette idée de construction aussi, d'un cimetière très ancien, très abîmé par le temps, avec des informations qui s'effacent, avec des choses dont on va plus distinguer vraiment à quel endroit l'écriture intervient ou a été effacée à cause des plantes, à cause des chaînes. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a pas mal de chaînes qui pendouillent un peu de partout sur les pièces. Il y en a énormément sur Billy, mais aussi celle-là évidemment, et puis plusieurs pièces ont des légères chaînes qui sont des chaînes grossières. À la base, je pensais pas mal aux chaînes des caveaux où on a ces gros maillages avec ces petites pointes qui apparaissent dessus en croisement, vous voyez, et qui sont souvent tendues mais laissées ballantes en même temps, pour rappeler que la dureté de la mort, la dureté de la violence de ne pas pouvoir se déplacer, aller de l'autre côté et aller voir l'âme qui y reste. Et je trouvais ça assez intéressant sur ce potentiel sacré, mais ce sacré profane, comme tu disais, qui peut intervenir et qui peut apparaître sans que j'évoque forcément de manière directe « je voulais faire une référence au cimetière ». Et c'est pour ça aussi que j'ai joué sur cet élément de la chair, que je vois comme de la chair, qui intervient et qui sort de ce côté très, très rigide et très, très peu vivant finalement. Il n'y a rien de moins vivant qu'un cimetière.
Du coup, j'ai trouvé ça dans l'image très juste, la manière dont tu fais partie d'une matière, tu recouvres, et finalement, c'est cette peinture qui recouvre cette matière qui déclenche cette émotion aussi là chez les enfants, mais c'est une sculpture qui saigne.
Ouais, c'est cool, ouais. C'est assez intéressant. Je suis très content que tu me dises ça.
Ouais.
Parce que j'ai vraiment joué, vous avez vu forcément, sur cette espèce de dualité, mais en faisant aussi tout de manière à ce que le rouge apparaisse sous la pierre. Donc il y a vraiment la chair molle, en fait, la chair molle qui apparaît sous le rigide. Et donc du coup, c'est un jeu qui se fait en plusieurs temps. Évidemment, là, je parle vraiment plus de production, mais ça nécessite de partir donc un matériau qui ressemble à des plaques de bois dans lesquelles je vais creuser, sur lesquelles je vais peindre une partie. Donc en général, j'essaye de voir avant quelle partie je vais peindre, de la délimiter pour pouvoir ne pas l'attaquer directement. Et une fois que la partie est peinte, je retravaille ce que j'ai déjà retravaillé pour qu'on voit la jonction comme non pas un ajout de matière, mais une matière qui s'est creusée. Et ces différentes strates impliquent que je fasse attention à quel moment je fais rentrer celle-là dans l'autre, avec plus ou moins de réussite, des fois. Ici, je suis assez content de cette pièce, mais à la base, je ne la voyais pas vraiment comme ça. Et je comptais vraiment à ce que la chair sorte littéralement de la pièce. Et puis, en fait, le fait est que de rajouter des strates, ce n'est pas rajouter non plus de la matière telle quelle. Je ne pouvais pas travailler la matière comme une unité, mais je devais rajouter des strates de bois pour pouvoir rajouter les mains, etc. Et donc, les mains viennent plutôt s'accrocher dessus et viennent sur la partie supérieure comme des éléments qui se rajoutent et non pas des éléments qui sortent et qui font dévier la matière. Contrairement peut-être plus aux parties en bois des grilles, où là on voit une continuité de la grille mais qui se déforme, et donc du coup la matière semble apparaître comme quelque chose en surplus, quoi. Et voilà, et ce jeu est tout le temps quelque chose sur lequel je travaille. J'aime beaucoup travailler là-dessus parce qu'il y a un côté assez facile visuellement de faire des oppositions colorimétriques, des oppositions de matière, et puis de montrer à une personne qui vient voir l'exposition que la matière qu'il ou elle a identifiée comme étant du bois ou tout simplement une matière peinte, un peu inerte, est en fait colorée mais dès l'intérieur, et que moi je ne rajoute pas de la couleur de partout, je la rajoute en surface et ça reste en surface. Tout le reste est de la couleur naturelle, entre guillemets encore, de la matière, quoi. Et du coup, d'impliquer tout ça sur un ensemble de pièces, ça me permettait de sortir de ce côté très schématique, très fermé que pouvait avoir la récupération de pièces directement sorties de terre avec la terre qui est autour pour reposer dans l'espace comme des pierres tombales, quoi.